bienvenue dans cette émission. Pandémie du coronavirus en RDC, le pays depuis la semaine dernière a annoncé le début de la troisième vague avec une reprise des nouveaux cas de la maladie qui, selon les spécialistes, est caractérisée par la présence des variants venus de l'étranger. À Kinshasa, par exemple, les autorités ont décidé de rappeler aux populations la nécessité de respecter strictement les mesures de lutte contre le coronavirus, comme l'interdiction des rassemblements de plus de 20 personnes, les accolades, les concerts, les lavages des mains, la distanciation sociale et les ports obligatoires du masque en public. Que pensez-vous de cette réaction des autorités et ces mesures utilisées jusqu'ici sont-elles aussi appropriées pour cette troisième vague où il faut en prévoir d'autres? C'est l'objet de l'émission de ce soir. Et nous recevons Charles Mboutamoutou, il est porte-parole du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Bonsoir, monsieur le ministre Charles Mboutamoutou.
Bonsoir, mon frère.
Professeur Joseph Kosambi, il est ministre provincial en charge de la santé du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Bonsoir, professeur Joseph Kosambi.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Et professeur Gauthier Moussengue Mwanza, il est docteur en sociologie et professeur au département de sociologie à l'université de Kinshasa. Bonsoir, professeur Gauthier Moussengue Mwanza.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Bienvenue à tous, une fois de plus, dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nous l'avons dit dans les sommaires, troisième vague de Covid-19, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, exhorte les Kinois au respect des gestes barrières pour lutter contre les variants indiens et sud-africains dont la ville de Kinshasa est considérée comme épicentre en RDC. Dans un message rendu public mardi 8 juin, les patrons de la ville de Kinshasa insistent sur certaines mesures en relâchement pour lutter contre cette pandémie, notamment l'interdiction des productions artistiques, l'inhumation des corps sans veillée mortuaire et les compétitions sportive à huis clos. On l'écoute.
Les lavages réguliers de mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Les ports corrects et obligatoires de masques dans le lieu public, dans les taxis et transports en commun. La prise de température avant l'accès en des lieux publics. La distanciation physique. L'interdiction des activités publiques comme le marché public, les productions artistiques et les kermesses. Les cérémonies festives et les réunions de plus de 20 personnes. Les compétitions sportives se font à huis clos. Les transports des dépouilles mortelles directement de la morgue au lieu d'inhumation sans veillée mortuaire. Le fonctionnement des églises avec strict respect des gestes barrières. La circulation pendant le couvre-feu de personnes munies de l'autorisation spéciale de l'autorité provinciale, à l'exception, bien entendu, des personnes se trouvant dans la situation d'urgence sanitaire. J'instruis à cet égard le commissaire provincial de la police nationale congolaise à assurer le contrôle strict des présentes mesures.
Charles Mboutamoutou, je rappelle que vous êtes porte-parole du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Nous venons d'écouter le gouverneur de la ville de Kinshasa. En fait, il ne s'agit pas de nouvelles mesures, il s'agit plutôt de rappeler celles qui étaient déjà en vigueur, monsieur le ministre.
Oui, effectivement, il s'agit de rappeler les mesures très efficaces, mais qui n'étaient pas appliquées, qui n'étaient pas d'application, ou du moins qui avaient connu un relâchement, parce que nous avions tous pensé que la pandémie faisait partie du passé. Et là, le gouverneur de la ville de Kinshasa, en tant que premier citoyen de la ville, a pris ses responsabilités pour rappeler la mise en application stricte de ces mesures qui sont efficaces, qui se sont avérées efficaces sous de précieux et chez nous également, compte tenu des conditions socio-économiques actuelles, il est important que les gens appliquent ces mesures pour éviter à ce qu'on recourt à des solutions extrêmes. Donc il est important, si nous pouvons respecter les dispositifs de mesures barrières, donc si on peut se laver régulièrement les mains, cela a été démontré, l'efficacité a été démontrée. Si nous pouvons également porter correctement nos masques, nos cachelets, ça permettra de freiner ou de barrer la route au virus. Si, en fait, nous respectons toutes ces mesures édictées par l'autorité urbaine, nous pensons que ça va porter des fruits. Et pourquoi nous parlons des rappels? Parce que, comme vous le savez, certaines de ces mesures ont été prises par les chefs de l'État. Ce sont les mesures qui ont été prises par les chefs de l'État et nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas les modifier. Donc, nous faisons que veiller à l'application stricte de ces mesures qui sont efficaces.
Quand vous circulez dans la ville de Kinshasa, ce qui attire l'attention, c'est le non-respect des gestes et barrières. Dans les transports en commun, les gens sont entassés. Sur les places publiques, les gens ne portent pas leurs masques, et ainsi de suite. Monsieur le ministre, avant de rappeler ces mesures, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi la population a du mal à adhérer à ces mesures et pourquoi elle n'applique pas ces gestes et barrières?
Mais vous savez, le véritable problème, c'est que nous sommes dans un contexte purement chinois où, d'abord, avec l'arrivée de la pandémie, des gens ont pensé qu'il s'agissait des montages. Beaucoup de Chinois qui ne croyaient pas. Il a fallu qu'il y ait des morts, qu'il y ait des proches, des membres de famille touchés pour que les gens puissent croire. Et c'est un problème aussi sociologique. À Kinshasa, beaucoup de gens pensaient que c'était un montage. On racontait au début que pour tout membre de la famille décédée, on devait vous donner de l'argent et les gens n'avaient pas cru. Alors, il y a aussi un problème économique au niveau du pays. Nous avons des difficultés de transport. Donc, les gens qui doivent aller au travail se retrouvent parfois en retard et face à un moyen de transport qui ne sait pas contenir tout le monde, les gens se disent mieux vaut prendre les transports que de manquer le travail. Donc, il y a des contraintes socio-économiques qui ont fait que nous soyons en difficulté pour faire appliquer ces mesures. Mais au-delà de tout cela, je pense que les Chinois ont quand même pris conscience progressivement et ils étaient mis à appliquer ces mesures, ce qui nous avait permis d'enrayer quand même la propagation de la pandémie. Mais il y a toujours des Chinois qui sont restés sceptiques et pour cela, il nous a fallu appliquer des sanctions pour faire appliquer. Donc, moi, je pense que tous ces facteurs réunis n'ont pas permis que nous puissions vraiment faire appliquer à la lettre toutes ces dispositions. Mais pour le moment, je pense que, comme vous l'avez dit, cette troisième vague paraît plus meurtrière que les deux premières. Donc nous devons tous renforcer la sensibilisation, faire comprendre aux Chinois qu'il s'agit d'abord d'un problème individuel, parce que quand on tombe malade, c'est l'individu qui est malade et les conséquences, c'est chacun qui en pâtit. Donc nous devons continuer à sensibiliser. Moi, je pense que le fait que les Chinois soient sceptiques ne doit pas nous décourager. Ça doit plutôt nous pousser à chercher d'autres stratégies pour inviter tout le monde au respect des mesures barrières.
Voilà, vous dites que parmi les facteurs qui expliquent le fait que la population soit réticente, n'est-ce pas, par rapport au respect des mesures barrières, il y a le fait que cette population chinoise en particulier et congolaise en général ne croit pas souvent à cette maladie. Et pourquoi ne pas appliquer certaines approches dans la sensibilisation, hein, insérer des approches telles que envoyer, n'est-ce pas, des gens dans les hôpitaux où les malades sont même connectés à des respirateurs. Les gens peuvent prendre les images sans pour autant montrer les visages des patients. Et ça, c'est des images qui sont souvent exploitées dans d'autres pays et des images qui frappent l'opinion. Et pourquoi ne pas faire la même chose chez nous? Peut-être que cela pourrait aider les personnes qui sont encore réticentes et qui ne croient pas beaucoup à la maladie, qui sont encore sceptiques, de pouvoir croire qu'effectivement la maladie existe et elle fait des victimes chez nous en RDC.
D'abord, nous avons pensé plutôt impliquer les leaders d'opinion et passer à une sensibilisation en France. Vous avez vu que le gouverneur a fait des rondes à travers les grandes églises de la ville. Nous avons également impliqué les artistes et tous les autres pour sensibiliser. Au niveau des écoles, on a sensibilisé. Et nous pensons que par rapport à l'éthique, peut-être par rapport à notre aux habitudes, aux us et coutumes africaines, mais aussi par rapport à la dignité du malade, il n'était pas bon. C'était peut-être une forme de pression à mettre sur les malades, de voir les gens les filmer et faire ceci, ce serait pas bon d'exposer les gens qui sont malades. De toutes les façons, au fur et à mesure que les choses avaient avancé, chacun d'entre nous s'est retrouvé touché d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, les Chinois ne peuvent plus dire qu'il s'agit des inventions, que la Covid n'existe pas et que c'est une invention. Non. Chacun d'entre nous a été touché d'une manière ou d'une autre. Nous avons eu des proches, des membres de la famille qui sont tombés malades, qui en sont guéris pour certains, gloire à Dieu, et certains qui en sont cessés comme eux également. Donc aujourd'hui, moi je pense que l'important c'est de renforcer la sensibilisation, et au-delà de la sensibilisation, les sanctions. Utiliser notre police qui doit faire appliquer les dispositions prises pour des dispositions contraignantes, les pénalités, les sanctions, tout ce qu'il y a comme amende à infliger. Là, nous devons l'accent de ce côté-là, parce que le Quinois, c'est quelqu'un qui n'écoute pas facilement. Vous connaissez le Quinois, nous sommes dans un contexte quinois où les gens aiment plus la sanction, les gens aiment plus qu'on puisse faire pression pour appliquer. Le Quinois n'est pas facile à manier, mais du moins, pour le moment, nous en appelons une prise de conscience de tout un chacun, parce que si nous ne respectons pas les mesures barrières et qu'on arrivait au cas extrême que nous ne souhaitons pas, qui est vraiment augmentation exponentielle comme ça se fait actuellement, que la courbe ne baisse pas, peut-être que les autorités seraient tentées de recourir encore au confinement ou à d'autres stratégies qui, sur le plan économique, seraient suicidaires. Donc, tout Quinois a intérêt pour le moment. Nous voulons leur expliquer que nous avons tous intérêt à respecter les mesures barrières pour contrer cette pandémie.
Voilà, vous en appelez à une prise de conscience de chacun. Mais, monsieur le ministre, il est reproché aux autorités politiques d'être les premiers à bafouer les mesures qu'elles-mêmes prennent. On voit les images à la télévision, hein, au Parlement, on voit dans quelles conditions les plénières se tiennent. Beaucoup des parlementaires ne portent pas les masques. Ils sont côte à côte en train de postillonner. Les gestes barrières ne sont pas respectés. On voit comment les réunions dans les états-majors des partis politiques, comment ces réunions se tiennent. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui rassurer, parce que nous faisons face à cette troisième vague, que cette fois-ci, l'homme politique va être le modèle?
Vous savez, l'homme politique est le plus exposé, hein, le plus exposé face au virus. Vous avez constaté tous que parmi les victimes, il y a eu des hommes politiques également. Donc nous ne sommes pas épargnés, nous politiques, par rapport à cela. Quand on parle de la sensibilisation, quand nous parlons d'un appel à la conscience, nous voulons faire face à nos responsabilités. Là, il s'agit de tout le monde. Nous sommes convaincus que tout le monde a intérêt à appliquer, tout le monde a intérêt à respecter ces gestes barrières. Nous devons placer l'intérêt communautaire au-delà des intérêts personnels, parce que si nous ne respectons pas en tant que politiques, en tant que décideurs, la population nous regarde. Si également nous exposons nos frères, ça posera de problème. Mais je pense vraiment que nous sommes conscients, les politiques également sont conscients, et on doit faire un effort pour que chacun, en ce qui les concerne, puisse éviter d'exposer la population, et chacun doit donner l'exemple, peut être modèle. Et je suis convaincu que s'il y a eu des erreurs dans le passé, après la troisième vague, nous allons tous nous appliquer.
Professeur Joseph Sambi, vous êtes ministre provincial en charge de la santé du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Comment le gouvernement provincial réagit face à cette troisième vague à laquelle fait face la RDC?
Merci, monsieur le journaliste. Donc, comme vous savez, le gouvernement provincial du Haut-Katanga, par le biais de son excellence, monsieur le gouverneur, nous avons toujours pris avec beaucoup de sérieux cette question de la COVID-19, puisque vous vous rappellerez que nous étions parmi les premières provinces au pays à avoir fait un plan de contingence avant même que la pandémie ne puisse être déclarée sur le sol congolais. Donc, nous avons géré avec beaucoup d'efficience la première vague et la deuxième vague. Nous sommes aussi conscients que nous sommes une province ouverte à l'étranger, surtout à l'Afrique australe, et nous avons un grand nombre d'expatriés chinois, indiens qui sont dans le domaine des mines. Nous sommes un poids très, très fort sur le plan économique. Et nous mettons tout en œuvre pour que nous puissions vraiment limiter la propagation de la maladie ici chez nous, puisque les conséquences, au-delà des conséquences médicales, sociales, il y a aussi des conséquences économiques très, très importantes. Donc, selon les recommandations de l'équipe nationale de riposte, nous avons déjà commencé à tester tous les voyageurs internationaux à l'arrivée à l'aéroport de la Loano. Et nous testons aussi à toutes les frontières, notamment Kasumbalesa, où il y a un flux migratoire très important. Et nous impliquons ici, j'ai entendu mon collègue de Kinshasa qui a parlé du domaine du transport. Donc, tant que nous ne gérons pas bien le transport en commun, les gens ne mettent pas le masque on ne respecte pas le nombre de passagers dans les taxibus, les taxis motos, les gens ne respectent pas les mesures barrières dans les églises et continuent à faire des manifestations de masse, nous aurons du mal à gérer cette troisième vague, surtout avec le variant sud-africain et le fatal variant indien.
Professeur, vous avez rappelé ici que vous testez toutes les personnes qui entrent dans la ville de Lubumbashi ou dans la province de Haut-Katanga. On dit que cela aussi est fait dans beaucoup de provinces, comme ici à Kinshasa. Mais les défauts de cette approche, c'est que lorsque la personne est testée, on la laisse partir 48 heures après ou 3 jours ou 4 jours après. Et lorsque les résultats sont disponibles, c'est à ce moment-là qu'on appelle la personne pour lui communiquer ses résultats. Entre-temps, si la personne portait les virus, la personne aura déjà, n'est-ce pas, propagé ces virus. Et pourquoi ne pas faire comme ailleurs? C'est vrai que ça nécessite beaucoup de moyens financiers. C'est-à-dire que lorsque la personne est testée à l'entrée de la frontière, vous mettez la personne en quarantaine avant de la libérer.
Merci pour cette réflexion qui est tout à fait philosophique, mais vous savez que notre pays a des réalités qui sont différentes d'autres pays. Vous voyez, par exemple, au Canada, cela s'applique partout dans des pays qui ont des moyens. Et je vous dis, par exemple, au Canada, au-delà du billet que vous payez, vous avez presque 1 200 $ encore de plus pour organiser la quarantaine à votre arrivée. Mais vous voyez dans le contexte purement congolais ici que quelqu'un, nos compatriotes, d'autres qui viennent et qui arrivent, puisque nous n'avons pas de structure d'accueil qui permette de mettre toutes ces personnes en quarantaine. Donc c'est aussi une approche, les gens viennent, à l'arrivée ils remplissent la fiche sanitaire, on prélève les signes vitaux, on teste, on prélève, et que dans un délai de moins de 24 heures que les résultats sortent. Mais on sensibilise de la même manière qu'ils prennent avant de prendre le vol, ils mettent le masque. Et lorsque la personne se sait responsable du port du masque, donc dans les 24 heures, avec une technologie un peu plus soutenue, on peut arriver à gérer ce testing dans le contexte purement de nos conditions à ressources limitées. Donc, nous le faisons et nous pensons que avec l'évolution, nous saurons nous adapter selon les réalités et de nous mettre à la page selon les standards internationaux. Mais avec efficacité, comme ici au Katanga, nous luttons beaucoup pour que tous les services œuvrant aux frontières puissent collaborer avec le service de la santé, le programme national d'hygiène aux frontières.
Oui, vous dites, vous luttez, c'est vrai, vous rappelez cela, vous faites votre part, vous, en tant qu'autorité provinciale, mais comment se comportent les habitants du Haut-Katanga face à cette maladie? Est-ce que les gestes barrières sont respectés dans cette province?
Merci. Nous disons qu'il y a eu un relâchement et cela est dû au fait que nous avons connu 2 mois pratiquement d'accalmie avec des cas positifs sporadiques. Mais vous savez que la maladie étant culturellement construite, il y a un problème d'acceptation de cette maladie pour plusieurs habitants et ils pensent que ça ne peut toucher que les personnes très âgées et que c'est plus d'autres peuples qui peuvent être touchés. Mais avec des approches, nous avons impliqué tout le monde comme à la première et à la deuxième vague. Nous avons associé toute la communauté, les relais communautaires, et on avait intensifié la communication, ce qui s'est fait actuellement. Mais par exemple, le service médical de la province ou du pays ne peut pas aller jusque dans les bars ou dans les endroits de rencontre. Donc il y a des services habilités, notamment la police et d'autres services qui peuvent faire le contrôle. Nous nous limitons à édicter les normes sanitaires, à faire la surveillance des alertes, donc la gestion des alertes. Nous avons un grand pilier qui est la vaccination. Nous continuons à vacciner et on vous dit que la province du Haut-Katanga est c'est la première province en termes du taux d'acceptation de la vaccination, puisqu'en moins d'un mois, nous avons pu vacciner presque 6 000 et il y a un engouement qu'on observe, bien que ça soit dans une proportion où c'est plus les expatriés qui l'emportent sur les nationaux, mais il y a de plus en plus une prise de conscience avec la sensibilisation, puisque nous-mêmes, nous nous sommes fait vacciner. Et je pense que la vaccination couplée à d'autres méthodes de sensibilisation, appuyées par la police, puisque à un certain moment, il faudrait user de certaines contraintes, disperser certaines manifestations et appeler plus de conscience des pasteurs et des hommes de Dieu, puisqu'ils ont été dans notre province formés. Et avec notre apport et nos services, nous avons dû instaurer la police des cultes.
Merci. Professeur Gauthier Moussengue Mwanza, vous êtes docteur en sociologie et professeur au département de sociologie à l'université de Kinshasa. Et comme vous venez de le suivre, les autorités ont décidé de rappeler aux populations la nécessité de respecter strictement les mesures de lutte contre cette troisième vague de coronavirus. Et que pensez-vous de cette réaction des autorités politiques?
Oui, merci. Je regrette d'abord que nous ayons encore une troisième vague de coronavirus, et cette fois-ci un virus qui est plus d'origine indienne, alors que les responsables de la santé en RDC avaient bien maîtrisé la situation au niveau de première et deuxième vague, parce que on est passé un bon moment où on ne parlait plus de corona, on ne parlait plus de mesures de lutte contre le corona, on ne parlait plus de décès et c'était très bon. Donc non, apparemment, nos responsables de santé avaient bien maîtrisé la situation. Mais il est regrettable que nous ayons vu certaines images où on faisait entrer les Indiens par des moyens frauduleux, alors que nous avons des services de migration. On nous a montré comment les services de migration zambiens arrêtaient des conteneurs qui transportaient les Indiens qui venaient de chez eux pour entrer en RDC par Kasumbalesa. Voilà, aujourd'hui, on parle maintenant de la troisième vague.
Professeur Gauthier Moussengue, est-ce que ce n'est pas aussi le fait d'avoir pensé maîtriser la deuxième vague de COVID-19, le fait d'avoir pensé ainsi, ce n'est pas ça qui a poussé, n'est-ce pas, non seulement les autorités, mais aussi les populations à pouvoir lâcher sur le plan des gestes et barrières? Et le fait d'avoir lâché a fait que la maladie, la troisième vague, puisse arriver chez nous.
Je ne pense pas que ce soit ça, parce qu'on parle maintenant de variants indiens, de variants sud-africains que nous n'avions pas. Donc ce sont les deux variants-là qui menacent sérieusement, alors que notre pays n'avait pas ça. Nous avons vu comment est-ce que ces différents variants ont menacé en Inde et puis en Afrique du Sud. Et nous avons vu les images comment les Indiens entrent dans notre pays d'une manière frauduleuse. Ils ne sont pas contrôlés, et ainsi de suite. Et voilà la situation que nous avons. Mais par rapport aux autorités, moi j'ai toujours insisté, les stratégies utilisées par les autorités pour informer la population, je trouve que ce sont des moyens qui ne sont pas adaptés, parce qu'ils vivent toujours d'un mimétisme occidental. Parce qu'en Occident, on fait des communiqués comme ci, comme ça, et ici aussi, on répète la même chose. Parce que, des fois, ce sont eux qui sont bailleurs de fonds, ils envoient l'argent pour informer les gens, pour sensibiliser les gens, et alors ils utilisent les mêmes moyens sans toutefois les adapter à notre coutume, notre façon d'être informés. Par exemple, le gouverneur a parlé, nous l'avons suivi, mais le gouverneur a adressé ce message aux instruits, parce qu'il a parlé en français, en bon français d'ailleurs. Il a parlé en français, il a fait un communiqué, il a fait un message, mais c'est en français. Il n'a pas parlé en Lingala. Il n'a pas parlé à Kikongo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du Congo ici. Il n'a pas parlé en Swahili et à Chiluba, et ainsi de suite.
Et donc, il faut améliorer la communication en insistant sur la formulation des messages dans les langues nationales.
Oui, ça surtout, mais ça ne suffit pas. Deuxièmement, tout le monde ne suit pas la télévision. Il faut passer dans des cités, voir, par exemple, j'ai entendu le ministre de ville de Kinshasa qui en a parlé, il doit voir les leaders d'opinion, entre autres les pasteurs des différentes églises. Ces pasteurs doivent transmettre le message au niveau de l'église. Il doit voir les musiciens, hein, tous ces gens-là, tous ces leaders qui ont des publics, ils doivent le voir, parce que le message qui sera transmis par ces leaders-là, que ce soit politique, que ce soit économique, socio-culturel, ainsi de suite, le message qui sera transmis par ces différentes personnes sera bien reçu par leur public. Et puis, troisièmement, contrairement à ce que le ministre a dit sur l'intimité des malades, Moi, je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'il y a une façon de transmettre les images sans violer l'intimité des malades. On peut prendre les images à distance parce que beaucoup de gens ne croient pas qu'il y a maladie, il y a coronavirus qui tue les gens. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas ça. Ils entendent seulement dire, mais ils ne voient pas. Si, par hasard, on projette les images des malades, même à distance, on ne saura pas distinguer les malades. Et puis même quand on prendra ces images, les malades ne les seront pas. Il y a une façon de prendre les images pour ne pas blesser les autres. Donc, ils peuvent prendre les images, on voit, parce que c'est ça qui est sensible pour nous, la population. Que les gens voient à distance, ils voient les malades.
Monsieur
Moussengue, dans les lits de l'hôpital, oui.
Un autre problème fondamental, c'est le fait que les populations sont réticentes, n'est-ce pas, par rapport au respect des gestes barrières. Et de votre avis, des sociologues, comment peut-on expliquer le fait que cette population, en dépit de tout ce qu'on apprend au sujet de la maladie, en dépit du fait qu'on voit les deuils qui sont organisés par-ci, par-là, parce que les gens sont morts de cette maladie, et comment vous expliquez le fait que les gens n'adhèrent toujours pas aux mesures édictées par les autorités pour lutter contre la pandémie coronavirus?
C'est par rapport à nos pratiques, notre façon de vivre. Vous savez, chez nous au Congo, pour saluer quelqu'un, vous devez lui tendre la main. Vous devez vous serrer la main. Chez nous, dire bonjour à distance, ça c'est une indifférence. On préfère ne pas dire bonjour à quelqu'un que de le faire à distance. Chez nous, on tend la main, on se serre la main, hein, pour marquer une certaine affection réciproque. Et vous vous regardez, vous faites un sourire. Alors, quand vous allez demander à quelqu'un, aux gens de se saluer à distance, ça ne va pas. Ils ne vont pas accepter. C'est une nouvelle habitude qu'on veut nous imposer et ce n'est pas facile d'acquérir de nouvelles habitudes. C'est ça qui pose problème. Nous avons une vie communautaire. Quand vous demandez aux gens de rester chez vous, de ne pas aller voir les autres, ça pose problème parce que chez nous, nous avons une vie communautaire, on doit aller rendre visite à l'oncle, on doit aller voir la grand-mère, ainsi de suite. D'ailleurs, quand vous n'allez pas, ça pose problème. Parce que il y a des plaintes, voilà, il ne vient pas me voir, ainsi de suite. Donc, pour marquer notre vie sociale, notre vie communautaire, il faut aller vers l'autre. Il faut lui tendre la main, il faut lui serrer la main.
Professeur, cela veut dire que les Congolais ont eu du mal à adapter leur comportement aux contraintes qu'impose cette maladie?
Oui, effectivement, parce que c'est une autre façon, ce sont des pratiques qui ne nous sont pas habituelles dans notre mode de vie. Alors, c'est difficile de l'appliquer immédiatement.
Merci,
ça doit prendre du temps, il faut une police, il faut une surveillance très sévère, mais ça pose aussi le problème parce que le policier qui arrête quelqu'un parce qu'il n'a pas de masque, lui-même n'en a pas. Alors, ce citoyen qui est arrêté pose même la question aussi au policier, mais toi tu n'as pas de masque, comment tu m'arrêtes parce que je manque de masque? Donc, les moyens utilisés ne sont pas sensibles, ça n'amène pas la population à comprendre et puis appliquer.
Merci. Nous allons écouter maintenant les points de vue des auditeurs. Hein. Les auditeurs ont aussi donné leur point de vue par rapport à cette question. Et Monsieur le ministre Charles Mutamutu, vous allez réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Kananga au Kasai Central.
Maître Alidor Mampouya, avocat au barreau du Kasai Central et se trouvant dans la ville de Kananga. Nous saluons la mesure prise par les autorités en rapport avec la troisième vague de COVID-19, parce que cette mesure tend aussi bien à arrêter la propagation de cette pandémie qu'à arrêter la chaîne de contamination. Mais néanmoins, nous fustigeons le laxisme dans les chefs des autorités quant à l'application de cette mesure. C'est pourquoi nous sollicitons cette fois-ci qu'il y ait des sanctions exemplaires à l'égard des contrevenants à cette mesure, et nous sollicitons aussi à ce qu'on puisse étendre des mesures de suspension, et plus particulièrement comme nous avions vécu pendant le confinement là, ce sont ces mesures-là qui avaient fait en sorte qu'on puisse arrêter la contamination de cette pandémie. Donc l'hypothèse de la fermeture de certains lieux publics et de certaines activités ne peut pas être écartée, et tout cela c'est pour l'intérêt de la population congolaise.
Monsieur le ministre Charles Mutamutu.
Oui, effectivement, il a raison. Je pense qu'à un certain point de vue, il n'a pas tort. Et pour l'instant, aucune mesure n'est à exclure. Et les mesures, on les prend de manière échelonnée, de manière progressive, comme on a lancé la première série de mesures, on a rappelé au respect des gestes barrières, la distanciation physique dans les lieux publics, dans les moyens de transport. On a également recommandé l'interdiction des marches, certaines activités publiques. On voit progressivement, on voit les effets que ça va produire. Il est possible que si nous nous mettons à les appliquer de manière rigoureuse, et nous prenons le dessus sur la progression de la pandémie. Au cas où ça ne devait pas évoluer, on passe à la deuxième série de mesures. Mais je suis convaincu que les choses peuvent évoluer. Il n'a pas tort. Et pour le moment, aucune mesure n'est à exclure.
Oui, monsieur le ministre, c'est l'impression qu'on a. Hein, vous limitez à prendre des mesures, mais vous ne faites pas appliquer ces mesures-là. Et quelles sont les mesures d'accompagnement pour que les décisions qui sont prises soient respectées? On sait que pour que ces mesures-là soient respectées, c'est des notoriétés publiques. Hein, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de moyens financiers. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour, n'est-ce pas, accompagner, par exemple, les écoles à pouvoir s'équiper en dispositif de lavage des mains? Et qu'est-ce que vous comptez faire pour pouvoir accompagner ceux qui ont investi dans les transports en commun pour que la distanciation soit respectée dans les taxis, dans les bus comme au Transco? Et qu'est-ce que vous comptez faire concrètement, monsieur le ministre Charles Mbutamoutou?
Effectivement, il y a des mesures d'accompagnement qui vont être prises et certaines sont déjà mise en application. Vous avez suivi que son excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, a inscrit le commandant provincial de la police pour veiller à la bonne application de ces mesures. Mais dans l'entretemps, il nous faut des moyens, il faut chercher des moyens pour doter la police, des moyens de sa politique, parce que faire respecter les couvre-feu, il faut déployer des hommes, il faut les nourrir, il faut les équiper. Là, nous nous battons pour essayer d'accompagner. En ce qui concerne les écoles, ce matin, je venais de lancer la distribution des intrants de lutte anti-Covid. Pour une première tranche, il y a au moins 886 écoles de Kinshasa qui vont être dotées des cache-nez, des thermoflashes et de beaucoup d'intrants anti-Covid. Ça, nous venons de les lancer aujourd'hui même à Kinshasa avec l'appui de l'UNICEF et de certains partenaires. Mais il y aura également d'autres qui vont intervenir. Le gouvernement va mettre également la main à la pâte. Donc, comme elle vient d'arriver, nous avons un peu beaucoup plus d'expérience. Ce n'est plus la première vague. La première était arrivée alors que nous ne connaissions vraiment pas très bien comment contrer le virus. Mais là, nous sommes convaincus qu'il est important de prendre des mesures. Pour les écoles, je vous ai dit qu'on venait de prendre déjà. Mais pour d'autres également, avec l'aide de la police, l'appui de la police, nous allons vraiment prendre des mesures contraignantes et veiller au respect de ces dispositions.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre Joseph Sambi, vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Maniema.
C'est David Soumaïl Moussafiri depuis Omaza dans la province du Maniema. Au moins cette fois-ci, le gouvernement a pris une décision responsable, d'autant plus qu'il n'a pas songé à fermer les écoles. Parce qu'on commençait à sentir que les écoles et universités étaient les premières victimes et cibles des répercussions liées à la pandémie à COVID-19. Cependant, je constate aussi que le gouvernement est un peu lâche dans le secteur des transports et voies de communication. Il y a un total de relâchement dans l'exercice des fonctions de certains services, ce qui occasionne l'entrée massive de personnes infectées par le virus dans le pays. Ainsi, au lieu de tout remettre à la population, le gouvernement devrait aussi se remettre en question et prendre ses responsabilités.
Professeur Joseph Sambi.
Nous allons suivre l'allure et la courbe des contaminations. Si nous voyons que c'est un désastre et tout, je crois que l'optique de fermer, ça se fait partout, donc de fermer les écoles et autres confinés, mais c'est... Ça dépendra d'une analyse approfondie, puisque nous devons désormais comprendre que la maladie est avec nous et il faudrait qu'on apprenne à vivre avec elle. D'ailleurs, dans le cadre de la vaccination contre le Covid est devenue une vaccination de routine. C'est vraiment dans le calendrier du programme élargi de vaccination. Donc, avec le respect des mesures barrières avec l'indication de tout le monde, je crois qu'on peut éviter effectivement la fermeture d'écoles et d'autres activités qui peuvent aussi asphyxier notre économie. Donc que les les responsables de ces structures puissent effectivement faire respecter les mesures barrières. Mais nous, nous avons la crainte puisque les écoles constituent pratiquement un endroit où le virus circule chez les enfants, et les enfants en rentrant à la maison contaminent leurs parents et leurs grands-parents, et qui peuvent par la suite décéder ou faire des formes très graves qui peuvent asphyxier même la famille et rendre pratiquement les parents invalides. Donc c'est mieux que vraiment nous prenions garde, nous puissions conjuguer les efforts ensemble pour éviter vraiment un confinement strict. Mais cela dépendra, à mon avis, de l'évolution de la pandémie, puisqu'on ne peut pas laisser le pays attaquer. C'est comme une attaque militaire. De la même manière qu'on surveille nos frontières par les services militaires, celle-ci, c'est aussi une guerre sanitaire, et nous devons avoir les armes nécessaires. Si on voit que l'attaque de l'ennemi est très, très forte, là, il faudra fermer les frontières, il faudra prendre d'autres mesures pour freiner l'évolution de cet ennemi sanitaire qui est en train de mettre à genoux le monde entier. Donc, la vaccination couplée à une surveillance stricte, à l'implication de tous et à la sensibilisation adaptée. J'ai beaucoup aimé la réflexion de cet auditeur qui a dit, nous, comme politiques, comme leaders et tout ça, nous devons adapter la communication à différentes couches de la population, puisque lorsqu'on parle en français, c'est pas tout le monde qui nous suit. Donc c'est comme ça qu'au niveau de la province du Haut-Katanga, on a adapté, et c'est pratiquement tous les leaders, même les comédiens, les leaders religieux sont associés, et les relais communautaires, puisque nous avons zonalisé la lutte. Ce n'est plus une affaire seulement du niveau provincial ou national. La zone de santé étant l'entité opérationnelle du système de santé, avec les aires de santé qui ont des relais communautaires, ces relais communautaires expliquent mieux et peuvent passer dans les marchés, peuvent passer dans leurs entités pour sensibiliser que tout le monde s'approprie la lutte.
Merci, monsieur le ministre. Professeur Gauthier Moussengue, vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient de Bukavu au sud Kivu.
Sikiri Tchomba, je vous appelle depuis Bukavu dans la province du sud Kivu. Cette réaction des autorités est responsable, mais pas du tout suffisante. Pour arriver à bout de cette pandémie, on doit travailler en amont au lieu de travailler en aval. Sinon, on ne pouvait pas être surpris par des variantes venues de l'étranger. D'une part, on veut combattre la pandémie tout en exposant le pays aux variantes étrangères. N'est-ce pas là une contradiction? En plus, on doit parvenir à susciter la conscience collective, car jusqu'à présent, la population congolaise dans son ensemble ne croit pas à l'existence de cette pandémie. Pour moi, c'est bien beau de prendre des mesures barrières, mais si on n'amène pas la population à s'approprier de la lutte, ça sera un coup de paix dans l'eau. La sensibilisation doit s'intensifier. Je propose la stratégie de porte en porte. L'État doit renforcer la surveillance au niveau des frontières ou carrément annuler les vols en provenance des pays à haut risque.
Professeur Gauthier Moussengue.
Merci de l'intervenant. Il est bien informé. Il a presque appuyé ce que j'avais dit au départ. Il a démontré la légèreté au niveau des frontières. On laisse passer des gens sans contrôle, sans quoi. Et c'est ce qui nous a amené encore de variants indiens et sud-africains que nous n'avions pas. Et je suis d'accord avec lui. Comme mon prédécesseur avait dit, il faut renforcer le contrôle au niveau des frontières. Parce que n'oubliez pas que les images que nous avons eues de passages frauduleux des Indiens dans des conteneurs, c'était les services de migration zambiens qui les a arrêtés, pas chez nous. Chez nous, on n'a pas vu comment le service de la migration de notre pays a arrêté des cas de fraude comme ça. Nous avons vu seulement dans la ville de Kinshasa où on a fait la chasse dans des milliers des Indiens qui vivent vraiment en communauté. Et on a fait la chasse, on a contrôlé, et puis finalement on a réalisé que il y avait beaucoup beaucoup d'Indiens qui étaient affectés et finalement, je pense qu'on les a retournés chez eux. Et puis, nombreux étaient dans des situations irrégulières dans notre pays. Donc, on doit renforcer le contrôle et on doit adapter la stratégie d'information et sensibilisation de la population par rapport à nos pratiques, par rapport à notre mode de vie, par rapport à notre coutume, par rapport à notre culture. Donc, si on fait des discours seulement en français, et puis des communications qui ne sont pas sensibles, qui n'atteignent pas vraiment la population, ça pose des problèmes. Et nous avons l'habitude de voir quand nous voyons et à ce moment-là nous croyons. Quand on nous donne seulement l'information, il paraît qu'il y a eu ceci, cela, il paraît qu'il y a un virus qui fait tuer les gens. Les gens n'y croient pas parce qu'ils ne voient, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas palpé. Si on nous fait passer des images des gens dans les hôpitaux, mais on en a vu pour les blancs. On nous a fait voir comment est-ce que les blancs étaient malades, étaient allés dans les lits à l'hôpital, mais on n'a pas identifié ces malades-là parce qu'on nous a pas montré leur visage, on n'a pas montré leur intimité, mais on a vu les gens on a d'abord même le corps, les cadavres étalés à la morgue, et puis les malades dans des lits des hôpitaux, et c'est ça qui nous a fait croire. Un peu. Mais chez nous, ici, quand on nous dit sans voir, sans image, on ne voit pas les gens dans l'hôpital, non, les gens ne vont pas croire.
Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de l'émission, nous allons conclure. Monsieur le ministre Charles Mutamutu, les mesures que vous avez rappelées, est-ce que vous pensez qu'elles sont appropriées pour cette troisième vague ou vous pensez qu'il faut en prévoir d'autres? Ça sera votre conclusion, monsieur le ministre.
En tout cas, pour l'instant, je pense que ces mesures sont appropriées parce que, comme vous le savez, si nous respectons les gestes barrières, nous réussissons à freiner déjà la propagation du virus. Si nous réussissons à imposer ou à faire adopter les ports obligatoires de masques lorsque les gens sont dans des milieux publics, ça permet également à contrer la progression du virus. Je pense que pour l'instant, quelles que soient les conditions, toutes les mesures prises dans le cadre de la lutte contre cette pandémie consiste à freiner la propagation du virus. Et le respect des gestes barrières, le port de masque, la distanciation sociale sont parmi les mesures les plus efficaces. Donc, pour l'instant, alors que la troisième vague venait d'être déclarée officiellement, je pense que ces mesures pourront produire des effets si seulement les Congolais, les Kinois que nous sommes, arrivaient à les mettre en application.
Merci, monsieur le ministre. Professeur Joseph Sambi, votre conclusion?
Ok, nous disons ceci. Par rapport à tout ce qui est fait, il faut qu'on puisse associer toujours la population. Puisque lorsque la population s'approprie la lutte, là, si c'est une affaire des professionnels de santé, des autorités sans vraiment impliquer fortement la population et sans être très, très regardant par rapport à tout ce que nous prenons comme mesure, le suivi, et surtout la conscience de tous ceux-là qui sont censés contrôler le respect des mesures barrières, là, nous serons dans un cercle vicieux. Mais ici, l'occasion de rappeler à nos compatriotes d'être sérieux, comme je l'ai entendu d'un auditeur, lorsque dans les aéroports, on permet aux expatriés, à nos compatriotes d'arriver, puisqu'il y a une pièce de monnaie qu'on glisse à quelqu'un, de la DGM, de services de PNHS ou d'autres qui laissent passer des gens sans les tester, là, nous serons vraiment dépassés.
Merci, professeur Joseph Sambi. Et professeur Gauthier Moussengue, votre mot de la fin.
Je demande à nos compatriotes de savoir que le corona existe et ça tue les gens. C'est une réalité et tout le monde doit respecter tout ce qui a été prévu comme moyen de protection contre le coronavirus. Et nous demandons aussi aux responsables des services de migration de bien faire leur travail pour protéger la population congolaise.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique. Merci à Dona Madimba qui a réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sefoujangwe. À la présentation Guy Maté. Merci et bon soutien au programme sur Radio Capi.